Bienvenue sur Canopod, le podcast de Canopéa. Ça n'a échappé à personne. Le 9 juin, on vote. Le contexte est un peu anxiogène car il y a de nombreuses crises. Guerre, pandémie, épisodes d'inondation ou de chaleur, variation du prix de l'énergie. La société civile, sensible aux questions environnementales, se demande si leurs préoccupations liées au climat et à la biodiversité vont être prises en compte dans les programmes des partis ou si on va assister à une pause sur les politiques écologiques. Cette pause serait dramatique pour la santé, l'environnement, la justice sociale. Mais elle est hélas fréquemment réclamée et acquise sur certains dossiers sous la pression des partis de droite. Le mouvement environnemental vient précisément de sonder les partis politiques belges sur 38 mesures qui lui tiennent à cœur. Et Canopéa, sur base de ses réponses, a tenté de voir quelle serait, au terme des élections en Wallonie, la coalition au pouvoir qui pourrait porter le titre de coalition climat et biodiversité. Arnaud, interrogé par Alain, vous dévoile les résultats.
Bonjour Arnaud. Nous allons nous lancer là maintenant dans une petite demi-heure où nous allons faire le point sur ce que l'ensemble des experts chargés de mission de Canopéa ont produit comme travail dans le cadre d'un moment particulier qui a lieu tous les 5 ans, à savoir la période préélectorale. Donc, en quelques mots, qu'avez-vous fait ?
Ah ben, c'est pas que Canopéa. Donc, Canopéa, on a travaillé avec Natagora, on a travaillé avec Greenpeace, avec WWF, on a envoyé 38 questions. C'est quoi ces questions ? C'est plutôt des affirmations, c'est ce qu'on estime être nécessaire pour la prochaine législature, pour avancer significativement sur la question de la préservation de notre planète. On a envoyé 38 affirmations à tous les partis politiques démocratiques, en Belgique, francophone et en Flandre, et on a attendu leurs réponses. Alors après, on leur a laissé deux mois, et on a reçu des réponses de tous les partis, sur cette base, eh bien, on a pu dégager quelle affirmation, quelle mesure environnementale passe, quelle mesure environnementale ne passe pas, selon les différentes coalitions possibles au gouvernement wallon ou au gouvernement fédéral.
Et donc
ce qu'on peut déjà dire, et ce qui est quand même vraiment intéressant depuis 2019, depuis la dernière élection, c'est que véritablement, au sein des états-majors des partis, donc les sortes d'études, les parlementaires, il y a une vraie réflexion sur l'environnement qu'on ne voyait pas en 2019. Quand on allait les trouver en 2019, on avait un peu la pression qu'ils débarquaient sur la plupart des dossiers en disant on n'a pas vraiment réfléchi à la question. Là, ce n'est plus le cas. Hein. On sent qu'il y a quelque part, en tout cas dans les structures des partis, il y a plus de transversalité, il y a plus de compréhension des enjeux environnementaux. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très positif à souligner.
OK, donc tout le monde est d'accord sur le fait que l'environnement est important ?
Alors, je n'irai pas jusque-là. Tout de même, évidemment, il y a. Alors, on a fait un peu un exercice, en tout cas au niveau wallon, parce que c'est plus facile, évidemment. Hein. On peut voir. On a regardé les derniers sondages, les derniers sondages qui ont été publiés en mars de cette année. Et on a regardé quelle majorité pouvait passer et faire un gouvernement au niveau régional wallon. Donc, on a trois possibilités. On a une possibilité d'un pôle des gauches, une majorité qui serait avec le Parti socialiste, les engagés et écolos. Et puis, alors, on a une majorité comme la majorité actuelle, où, le MR, le PS et écolo, ou alors une majorité qui serait avec le PS, le MR et les engagés, qui remplacerait écolo par rapport à la majorité actuelle. Donc ça, c'est un peu les trois possibilités. Et pour chacune de ces majorités, on a regardé, sur les 38 mesures qu'on leur a envoyées, qu'est-ce qui passerait, en tout cas, dans les programmes à l'heure actuelle, qu'est-ce qui passerait dans quelle majorité.
Alors, juste une petite question, je t'interromps un instant, je n'entends pas parler du PTB.
Ah, effectivement, on a estimé à ce stade, d'après les déclarations qui ont été faites par Raoul Edebeau et les éminences grises du PTB, qu'ils ne voulaient pas participer à l'échelon régional. Et donc on n'a pas, même si effectivement ils pourraient faire partie d'une majorité, mais on a imaginé qu'ils ne désiraient pas faire partie d'un gouvernement. Peut-être qu'on se trompe de ce point de vue-là, on verra bien, l'avenir nous le dira, mais en tout cas c'est le choix qui a été fait d'un point de vue méthodologique.
Et du coup, par rapport à l'ensemble de ces mesures environnementales, quelle serait un peu l'orientation de la majorité qui se dégage ?
Ce qui est sûr, c'est qu'on peut véritablement tout de même voir que sur un certain nombre de mesures, une majorité plus à gauche est beaucoup plus en phase avec les propositions du mouvement environnemental. Donc on a même une majorité des mesures qui passent. Donc on a 28 mesures sur les 38 qui, selon nos estimations, passeraient dans le cadre d'une majorité de centre-gauche, c'est-à-dire avec le PS, les engagés et Écolo. Par contre, dans une majorité où on a le PS-MR engagé, qui est la majorité où on a le moins d'accord avec nos propositions, on n'a plus que 10 propositions sur les 38 qu'on a faites qui passeraient dans ce type de majorité. Donc on voit quand même une grosse différence entre une majorité de centre-droit et une majorité de centre-gauche par rapport aux propositions qui sont faites par le mouvement environnemental.
Ok, et est-ce que dans l'ensemble des mesures que vous avez proposées, est-ce qu'il y a des mesures qui sont retenues par tout le monde, par exemple ?
Alors ça, c'est la bonne nouvelle, effectivement. Il y a toute une série de mesures qui passent la barre, peu importe la majorité. Et en fait, c'est surtout des mesures en lien avec la biodiversité. Par exemple, la mise en œuvre d'un réseau écologique en région Wallonne, qui est une mesure qui est portée par le mouvement environnemental, eh bien ça passe, ça se retrouve dans tous les programmes de parti. Par exemple, on a aussi la préservation des espaces verts en milieu urbain ou l'installation d'espaces verts au niveau urbain. On voit que ça, c'est quelque chose qui est défendu par tous et donc qui passe peu importe la majorité dans laquelle on se retrouve.
Et à contrario, est-ce qu'il y a des mesures qui sont portées par les environnementalistes, par les défenseurs de la nature, qui n'ont aucune chance de se retrouver dans les programmes de parti ?
D'abord, peut-être juste pour dire, il y a toute une série de mesures qui se retrouvent dans une majorité de centre-gauche. Et là, on voit quand même qu'il y a une différence de vision qui existe entre la droite et la gauche, c'est, sans surprise évidemment, le rôle de l'État et le rôle de la règle. En fait, ce dont on se rend compte, c'est que généralement, quand il y a une interdiction, une règle qui fixerait une interdiction, je vous parle par exemple, on a regardé de mettre en place des obligations à la rénovation sur les bâtiments, dans certains cas par exemple. Dans le cas où on le met en location à bien, et bien là, on voit qu'effectivement, ça passe plus facilement la rampe à gauche de l'échiquier politique, donc au sein du PS, des colos et des engagés, que du côté du MR, où ils ont beaucoup plus de mal avec ce genre de mesures. Alors par contre, évidemment, pour répondre à ton autre question, il y a des tabous qui demeurent. Quand on pose la question, par exemple, de savoir quelle est la place de l'avion, et est-ce qu'il faudrait limiter d'une manière ou d'une autre, ou même taxer le transport aérien, eh bien là, on se rend compte effectivement que peu importe pratiquement qu'on soit de droite ou de gauche, il n'y a pas de différence et que l'avion reste l'horizon et le seul horizon de toute majorité, ce qui est extrêmement grave quand on lit évidemment les conclusions du GIEC.
Ok. Maintenant, quand on t'entend, on a l'impression que l'environnement est pris en compte par beaucoup de partis, avec des différences certes, mais en tout cas pris en compte, et que les mesures que vous avez avancées vont être dans les mises en application dans les prochains gouvernements, vont se retrouver dans les déclarations de politique. Donc on a l'impression que tout va bien. Or, on ne cesse d'entendre des discours où on réclame une pause environnementale. On voit que les agriculteurs ont obtenu une régression par rapport à toute une série de mesures environnementales ou par rapport à l'agriculture biologique. On voit que le Premier ministre réclame une pause environnementale parce qu'il estime que l'environnement, c'est beaucoup de mesures contraignantes. Et donc, je perçois comme une espèce de petite dichotomie entre les résultats que vous avez obtenus et la réalité de ce qu'on entend dans la presse ou dans les discours politiques actuels.
Franchement, on n'est pas dupes. On voit bien toute la limite de l'exercice qu'on a fait. Alors, la première limite, évidemment, c'est qu'on voit bien que les partis politiques ne nous parlent pas à nous, ONG environnementales, de la même manière qu'ils parleraient, par exemple, à un lobby de l'industrie qui leur poserait la même question. Alors, il y a une volonté de plaire, en fait. On voit bien dans les réponses qui nous ont été apportées par les partis que, surtout dans les partis de gauche, il y a une volonté encore de plaire aux ONG et de caresser dans le sens du poil. Donc, ils ont eu tendance à dire « on est d'accord principalement avec tout ce que vous nous dites ». Bon, on voit bien toute la limite de l'exercice. Et une des explications de cette limite, c'est que On voit bien aujourd'hui, et c'est une question vraiment pour la démocratie, on voit que les programmes des partis ont de moins en moins de valeur. On a fait l'analyse en 2019, le même exercice qu'on propose aujourd'hui, de regarder quels étaient les programmes des partis en 2019. Et puis après, on a regardé ce qui s'en faisait, c'est-à-dire dans quelle mesure ça se retrouvait dans la déclaration de politique régionale, qui est un peu l'espèce de programme que le gouvernement wallon érige au début de la législature. Et puis après, on a regardé, à la fin de la législature, qu'est-ce qui a été fait effectivement. Et là, on voit qu'effectivement, entre le programme de parti et la fin de la législature, 5 ans plus tard, il y a énormément de choses qui ne passent pas la rampe, et parfois des mesures qui étaient au début acceptées par tous les partis. Dès lors, on n'est pas du tout dupe sur le fait que parfois les programmes, il y a tout et son contraire. Et la preuve en est aussi de voir le nombre de pages. Hein. On a dépioté, on est en train de dépioter d'ailleurs toujours tous les programmes des partis. Il y a des milliers de pages de programmes de partis et il est évident que d'une certaine manière, on retrouve parfois tout et son contraire à l'intérieur d'un même programme et qu'il y a cette volonté visiblement, peut-être un peu parfois, de plaire à tout le monde et de mettre un peu les mesures qui plaisent aux ONG, mais aussi par ailleurs de mettre des mesures qui plaisent à d'autres secteurs et qui sont totalement incompatibles les unes avec les autres. La vraie question, c'est de savoir, en bout de course, quelles seront effectivement les mesures qui seront poussées par les présidents partis ou par les négociateurs au moment vraiment où ils formeront le gouvernement. Et là, il y a un déficit de visibilité, on ne sait pas très bien quel sera le petit cahier, quelle sera la petite liste, la petite short list que Paul Magnès, M. Nollet, M. Prévost, M. Boucher auront véritablement quand ils seront autour de la table et qu'ils diront, tiens, voilà, la priorité pour nous, pour ce gouvernement, c'est qu'on avance sur la diminution de viande, pourquoi pas. La diminution de la viande, ça, on n'en sait rien et le programme ne nous permet pas de le dire.
Mais donc, vous qui avez fait l'exercice précédemment pour d'autres élections et qui le refaites aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que ce gap entre le discours et la réalité est en train de progressivement se combler ou est-ce qu'il s'accentue?
Évidemment, il est trop tôt pour le dire pour cette législature-ci. Ce qu'on peut dire, c'est que pour la législature précédente, c'est qu'au début, il y avait un grand volontarisme et que en fait, on n'était pas très éloigné de ce qu'on peut faire comme analyse aujourd'hui sur base des programmes. C'est-à-dire que tendanciellement, il y avait quand même pas mal de partis qui adhéraient à nos propositions. La déclaration de gouvernement régionale, donc la feuille de route fixée par le gouvernement en début de législature, était plutôt très positive et progressiste en matière d'environnement. Et puis, en fait, au fur et à mesure de la mandature, on voit que beaucoup de mesures n'ont effectivement pas été prises. Ça s'est étiolé en cours de route. Alors, pour des bonnes raisons, il y a eu les inondations, il y a eu le Covid. Évidemment, on sait bien que le gouvernement a été un peu perturbé dans son programme, mais aussi pour des mauvaises raisons. Et on voit bien que parfois, les accords qui existent entre les partis d'une majorité au début de la mandature sont remis perpétuellement en question, et ce qui pose de nouveau une question de démocratie pour nous.
Est-ce que la coalition actuelle est en partie responsable, la composition de cette coalition est en partie responsable et de cet état de fait? Et est-ce que finalement vous n'êtes pas en train de plaider pour un recentrage ou plutôt même un retour vers plus de gauche au gouvernement?
Alors oui, on a vraiment essayé d'avoir une méthodologie qui soit le plus objectif possible. Alors tout d'abord, en préalable, toute notre vision de ce que devraient faire les politiques pour la prochaine législature essaye de reposer au maximum sur les études scientifiques les plus strictes. Donc le travaux du GIEC, notamment en matière de climat, de l'IPES en matière de biodiversité. Sur cette base, évidemment, on a toute une série de postulats. Un postulat, par exemple, c'est de dire que pour faire baisser la consommation de viande, pour faire baisser la place de l'avion, pour faire baisser la place de la voiture dans la mobilité, à un moment donné, l'État doit reprendre un peu la main. On doit plus planifier les choses, on doit interdire certaines choses. Et donc, c'est un peu le retour de l'autorité publique. Alors, il est indéniable qu'avec cette vision qu'on estime absolument nécessaire pour faire la transition environnementale, on est plus en opposition avec des partis comme le MR, pour lesquels évidemment le rôle et le rôle central de l'État est plus problématique et on se retrouve plus en ligne avec ce que peut défendre par exemple le PS qui traditionnellement est plus sur une vision qui donne plus une vision centrale à l'État. Mais l'objectif, à la base, est bien la plus grande objectivité possible dans l'évaluation des résultats.
Petite question peut-être un peu auxiliaire. Le travail a été fait par Canopéa et d'autres associations du côté francophone. Est-ce qu'on observe les mêmes tendances du côté néerlandophone ?
Alors oui, du côté néerlandophone, on a moins de consensus sur la question environnementale au sein du monde politique. Hein. C'est assez indéniable quand on voit les réponses aux questions. Il y a moins de réflexion et il y a moins de volonté de plaire à ceux qui sont comme nous, qui se prétendent en tout cas défenseurs de l'environnement. Dans les réponses qui ont été apportées par les partis, de manière générale, ils assument beaucoup plus le fait que ils n'ont rien à faire sur l'environnement parfois, et ils le disent franchement, parce que l'opinion publique, en fait, est beaucoup moins visiblement sensibilisée. En tout cas, c'est un sujet qui semble beaucoup moins porteur au sein des opinions publiques flamandes à ce stade. Ou en tout cas, une autre explication, c'est que le sujet de l'environnement est plus bas dans l'agenda politique par rapport à des sujets comme la migration, la sécurité, qu'il ne l'est en Wallonie.
Récemment, l'actualité s'est centrée sur l'attaque qui a été faite par l'Iran sur Israël. Donc, il y a un contexte de guerre de ce côté-là. Il y a un contexte de guerre en Ukraine. Est-ce que ces éléments vont intervenir et de quelle manière par rapport à des préoccupations environnementales ?
Bah, c'est indéniable. Hein. C'est ce qui va faire l'opinion publique et l'opinion au moment des élections. On sait que les élections, elles se font par rapport aux sujets qui sont au centre des préoccupations des gens au moment où ils votent, pour une grosse part de la population en tout cas. Et donc, si au moment, le 9 juin, au moment du vote, on s'occupe principalement de questions liées à la sécurité, il est indéniable que ce sera extrêmement difficile pour un parti, par exemple, qui essaie de défendre une ligne de défense de l'environnement, ce sera beaucoup plus difficile pour lui de défendre son message, et donc ce sera beaucoup plus difficile de manière générale d'avoir à la fin un programme de parti, un programme de gouvernement qui est positif. Donc on va pas dire qu'on espère, on espère en tout cas que l'environnement va reprendre une juste place dans le débat politique, parce qu'aujourd'hui, on en parle très peu, et vu qu'on en parle très peu, bah, il est très peu dans la préoccupation des gens, alors qu'en vérité, quand on regarde les sondages d'opinion, on voit que le climat et la biodiversité sont très hauts dans les préoccupations des gens. C'est juste que pour le moment, on n'en parle pas, et donc, ils ne voteront pas par rapport à ces sujets-là, principalement.
Mais en termes de sécurité, qu'est-ce qu'on pourrait dire de l'influence des dérèglements climatiques sur cette sécurité ? N'est-ce pas la sécurité ou l'insécurité la pire qui soit ?
Bah, c'est marrant. Hein, il y a eu le forum de Davos hein, l'hiver passé. C'est le forum qui rassemble tous les leaders économiques de la planète, en tout cas les personnes les plus riches de la planète. Et à cette occasion, ils publient un rapport très intéressant qui analyse les principales menaces sur l'économie mondiale à court terme et à long terme. Donc à court terme, c'est 1 ou 2 ans, et puis à long terme, c'est 10 ans. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que les 5 premières menaces identifiées par les leaders économiques de la planète, les 5 premières à 10 ans sont toutes des menaces environnementales. Et donc, il y a un énorme lien entre notre sécurité et les changements climatiques et la protection de la biodiversité. On sait évidemment le lien, par exemple, sur des guerres et des conflits. Le conflit en Syrie était à la base en partie, alors c'est très difficile de voir tous les événements, mais était en partie lié à des problèmes alimentaires qui étaient dus à des sécheresses constatées dans la région. Donc on voit de plus en plus des liens flagrants. Aujourd'hui, malheureusement, quand on parle de sécurité, on ne parle que de réarmement et d'augmenter les budgets militaires. Alors, peut-être que ça fait partie de la réflexion, mais en tout cas, on ne peut pas aujourd'hui parler de sécurité et omettre la problème, la base et la cause de la sécurité au niveau mondial et des troubles géopolitiques qui sont véritablement la dégradation de notre environnement. Et ça ne va pas s'améliorer dans les prochaines années, en tout cas si on lit les rapports du GIEC.
N'est-ce pas paradoxal d'entendre que Davos, qu'à Davos, qui est un endroit où l'économie prime, où ce sont l'intérêt des pays les plus industrialisés qui sont présents, qui demande aux politiques de faire attention à cette insécurité liée au climat, alors que ce sont les mêmes industries qui, aujourd'hui, font tout pour que le climat ne soit pas pris en compte dans les politiques de tous les jours.
Bah, les industries, c'est comme les citoyens, où ça n'existe pas vraiment. Il y a certaines industries, il y a certains citoyens. L'enjeu aujourd'hui, c'est de voir quelle industrie fixe l'agenda politique. Aujourd'hui, par exemple, si je regarde au niveau européen, on voit qu'il y a une grosse pression de certains industriels, notamment liés à la pétrochimie dans le port d'Anvers, qui sont en train d'exercer une énorme pression pour qu'on dérégule, qu'on supprime les réglementations qui avaient été notamment introduites via le Green Deal. Si c'est eux qui gagnent, si c'est eux qui font que l'agenda politique de la prochaine Commission européenne, c'est la déréglementation et la suppression des règles environnementales, eh bien, on aura tous perdu. Par contre, il y a aussi, y compris dans le secteur de la chimie, toute une série d'acteurs qui sont beaucoup plus avant-gardistes, qui voient de l'avant, qui voient la nécessité d'agir. Il faut rappeler que le prix de l'inaction est beaucoup plus cher que le prix de l'action pour la collectivité. Donc on a intérêt, même économiquement, à agir pour les changements climatiques et pour la biodiversité. Eh bien, certains acteurs économiques le voient et c'est eux qui doivent être écoutés. Aujourd'hui, nous, pour les ONG, notre stratégie et notre espoir, c'est que véritablement, ce soit ces industries émergentes qui ont une véritable vision de long terme, qui soient écoutées par les politiques et pas les vieux fossiles, si tu me permets l'expression, qui malheureusement sont souvent les plus puissants en termes de lobby.
Bien, maintenant nous sommes à 2 mois des élections. Vous avez fait cet excellent travail d'analyse des réponses des partis aux 38 questions que vous avez proposées. Quelles sont les prochaines étapes d'ici les élections? Qu'est-ce que vous allez encore faire? Et juste après les élections?
Alors, on a pas mal de choses qui sont prévues. On a lancé des campagnes parce que on a lancé une campagne grand public, notamment avec toutes les ONG. C'est bien de le souligner. Hein. On a vraiment réussi à travailler tous ensemble, à ne pas être séparés. Que WWF, Greenpeace, Natagora, nos plus petits membres peut-être qui ont moins de visibilité dans le monde médiatique. Et notamment avec eux, on a organisé une campagne à destination d'un public large qui s'appelle Je mérite plus, qui essaye de faire le lien entre ses préoccupations d'après les sondages des citoyens, le pouvoir d'achat et la préservation de l'environnement. Donc je mérite plus de transport en commun, je mérite plus d'alimentation de qualité. Donc ça, c'est une campagne qu'on a faite tous ensemble et qui est en train de tourner sur les réseaux sociaux. On a organisé un grand débat au mois d'avril avec tous les mandataires politiques, le grand débat sur l'environnement à tour et taxi. On continue à faire notre analyse sur les programmes de parti pour être le plus précis possible. Et puis, évidemment, On sera après les élections, on essaiera de rencontrer au maximum ceux qui feront les futurs gouvernements avec nos propositions pour leur rappeler notamment les promesses et pour leur rappeler le résultat de cette étude qu'on présente aujourd'hui, de le dire, écoutez, monsieur Magnette, monsieur Nollet, vous avez dit en avril que vous étiez d'accord avec ces propositions. Où est-ce qu'on les retrouve dans le programme de gouvernement? Et puis, ce sera évidemment la suite. Ce sera sur les 5 années qui suivront de le rappeler sans cesse. Mais pour que ce soit effectif, pour que nous, en tant qu'ONG, on puisse se faire entendre par les décideurs politiques et économiques d'ailleurs, il faut que derrière, on ait les citoyens. Et ça, c'est le message principal qu'il faut adresser. Il ne faut pas oublier qu'en 2019, si l'élection a tourné énormément, beaucoup plus sur la question de l'environnement. Si on a eu un Green Deal au niveau européen, qui a été au centre de l'agenda européen, c'est principalement parce que les jeunes sont descendus dans la rue de manière massive toutes les semaines. Et c'est ça qui a fixé l'agenda. Ce qu'on espère, nous, chez les ONG, c'est qu'il va y avoir un sursaut démocratique de la part de la population qui va nous permettre, nous, en sous-main, derrière, de pouvoir aller trouver les politiques avec en sentant le poids de la population qui nous soutient derrière et qui nous permet de mettre une pression maximum sur les politiques, les décideurs politiques.
Merci beaucoup Arnaud pour cet appel à la démocratie, cet appel à l'ensemble des citoyens pour un sursaut qui ferait en sorte qu'on prenne les priorités fondamentales en compte et on ne manquera certainement pas de se retrouver d'ici quelques mois dans l'analyse des résultats des élections et des déclarations de politique régionale que je n'ai aucun doute sur le fait que Canopéa va les analyser en profondeur.
Je me réjouis.
Les réponses de 5 partis politiques à 38 propositions ne peuvent évidemment pas être développées dans un podcast. Mais si vous souhaitez approfondir les grandes conclusions de cette enquête menée par le mouvement environnemental belge, rendez-vous sur notre site où vous trouverez en détail et de manière exhaustive tout le matériel précieusement récolté. Une saine lecture avant d'aller voter.